Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h05 de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission le samedi et le dimanche de 9h à midi. Toujours très heureux de vous retrouver le dimanche matin. On s'occupe de tout. Prenez tranquillement votre petit déjeuner. Horaire décalé, hein, pour vous aussi. Évidemment, nous avons changé d'heure cette nuit. Tout va bien se passer. On est là jusqu'à midi avec David Douillet, Sarah Pitkowski, Fred Weiss, Simon Dutin. Dans quelques instants, le bras de fer des GG, le projet NBA Europe qui a pris un peu plus d'épaisseur cette semaine. On va évidemment tout vous expliquer. J'aime pas. Ce sera le bras de fer. 10h30, la punchline des GG. Ce soir, Novak Djokovic va tenter de remporter son 100e titre sur le circuit ATP. C'est un réel objectif pour lui. Est-ce vraiment un événement? On va se poser la question. Et puis 10h45, vous le savez, vous prenez les commandes de cette émission, mais GG, en nous proposant un débat soumis au vote sur le compte X des grandes gueules du sport. Quelle est votre proposition aujourd'hui? Et comment c'est que Simon Dutin?
Alors, j'ai peut-être pas suivi, peut-être que c'est autorisé, peut-être que... Bon, je sais rien, mais je note que les tablettes... Tu sais, une digitale fleurisse sur les bandes touches en Ligue 1. On voit les joueurs, les entraîneurs qui visionnent grâce à ça immédiatement les actions éventuellement litigieuses. Et bon, moi, ça me plaît pas beaucoup. Et je vais demander à mes co-débatteurs s'ils pensent que c'est une bonne chose ou qu'au contraire, il faudrait les interdire.
Interdire les tablettes, c'est la proposition de Simon Dutin. Allez voter sur le compte X des grandes gueules du sport. Fred Veil, c'est quoi ta proposition?
Moi, j'avais envie de parler de Laurent Sirat. Vous savez, Laurent Sirat,
un ancien des grandes gueules,
qui vient de se faire suspendre par Monaco TV, tout simplement parce que juste avant le match Nice-Monaco, il l'a dit, alors avec les mots de Laurent Sirat, il a dit qu'il était pour Nice et qu'on ne pouvait pas soutenir Monaco. Et depuis, il est suspendu de TV Monaco. Donc, je me pose la question de savoir si on a le droit de tout dire quand même dans les médias ou si la censure doit faire rage.
T'es pour qui, toi, par exemple?
Moi, je suis plus pour on a le droit de dire ce qu'on veut.
Non, mais t'es pour qui, par exemple, le basket? T'es pour Limoges, toi?
Ah non, pas du tout. Je suis pour Paris, en ce moment. Paris, c'est bien ce qu'ils font.
Ok. Ouais. T'es pas pour Pau?
Ah non, par contre, non. Ne me demande pas trop non plus. Pas
pour nous, on est Radio Monte Carlo, donc il faut être aussi pour Monaco.
Monaco, évidemment.
Okay. Sarah Pitkowski.
Moi, je voulais revenir sur un fait dans le tennis de table. Vous savez que la semaine dernière, il y a eu les championnats de France de tennis de table qui opposent nos deux champions que sont Félix et Alexis Lebrun. Et pour la première fois, Félix Lebrun a battu son grand frère au terme d'un match épique. Et puis, sans qu'on s'en rende compte, en tout cas, on le savait pas, eh bien, de rage, Alexis Lebrun a tapé la table. Mais on n'a rien vu. Mais sauf que 48 heures après, Alexis Lebrun nous sert une vidéo où il s'excuse de son mauvais geste que nous n'avions pas vu. C'était quand on a perdu, on peut aussi avoir une colère.
Ah, c'est sauf pas Simon Dutin qui ferait ça. Hein,
sauf qu'il s'est fracturé un doigt. Il s'est fracturé un doigt et donc il va pas pouvoir jouer pour les prochaines semaines. Mais donc il nous a dit toute la vérité dans une vidéo très sincère. Et je me demande à un moment, est-ce qu'il faut tout dire, quoi? Est-ce qu'il faut être super sincère? Parce qu'il n'y avait pas de problème plus que ça dans l'absolu.
Ok. Voilà. Est-ce qu'il a eu raison de tout déballer comme
exactement
ça?
Exactement. Est-ce que sa sincérité, leur sincérité, est-elle vraiment nécessaire?
Très bon sujet aussi. David Douillet, à toi.
Moi, j'ai envie de vous parler de F1 et de revenir sur ce qui s'est un peu passé la semaine dernière en Chine, où une décision de Red Bull a décidé d'écarter Liam Lawson, le jeune prodige qu'ils avaient promu en F1 l'année dernière, au profit de Yuki Tsunoda, qui œuvrait dans leur deuxième équipe, Racing Bull. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Le gars, il a fait deux ou trois grands prix, paf, il est éjecté. Et j'ai remonté le temps et je me suis rendu compte que ce deuxième volant chez Racing Bull, je me demande s'il n'est pas un peu maudit. Parce que tous se sont cassés les dents. Ça a commencé par Gasly, Perez, Albon, maintenant Lawson. Est-ce que cette deuxième voiture, à part Verstappen, qui est capable de conduire cette voiture?
Ok.
Voilà. Alors, en point de mire, j'avais évoqué la semaine dernière notre ami Hadjar, hein, qui a 19 ans et qui rentre, et qui est chez Racing Bull. Est-ce que ce serait pas une bonne idée de le faire rentrer maintenant? Voilà, c'est toute la question qu'on se pose. et qu'on se posera si, bah, si j'arrive en tête. On verra bien.
Voilà, si David arrive en tête, eh bien vous allez voter en tout cas sur le compte X des Grandes Gueules du Sport pour votre débat préféré. Vous en avez 4 au choix, c'est à 10h45. C'est la première fois dans cette émission que je vais citer Michel Sardou. Alors j'en profite parce que c'est une bonne citation.
Oui.
Il a dit...
Je pars.
Non.
Mes chers parents, je pars.
Non, il a dit « Je suis comme le poireau, pas du tout exportable. »
RMC, le bras de fer GG.
18 octobre 1991. Pour la première fois, une équipe NBA débarque en France.
J'en ai un peu marre de cette invasion de la culture américaine, là, on n'en peut plus.
Des stars du basket américain sur un parquet français, l'événement est de taille.
Je veux pas un carotte cake le matin, je veux un croissant. Qui aime les carottes? On en a rien à foutre, les carottes, on les râpe, on les file au lapin, on fout sur les bonhommes de neige, tellement c'est dégueulasse.
Preuve de l'engouement, les joueurs sont suivis par les journalistes dans la rue.
C'est pas gentil. Non, je sais, c'est pas gentil, mais je les aime pas, les Américains.
Des ados en furie tentent d'obtenir un autographe.
Non, on a essayé d'appeler au cerveau, il y a personne. Bah, on est au Texas, mon pote, hein. Pas rien, hein.
Des extraterrestres en visite à Paris.
Oui, on va sur la Lune, oui, absolument. Hein. Et depuis 50 ans, ouais, on était les premiers, absolument. Oui, l'arme nucléaire, c'est nous au-dessus, oui, tout ça. Allez, les plus hautes technologies, on a tout du bon.
Et à chaque fois qu'une équipe NBA vient en France, c'est la même effervescence.
Ouais, ils ont une pensée complètement inversée, je veux dire, c'est le genre de peuple à rapprocher le piano du tabouret.
Et alors, qu'est-ce qu'ils comprennent, ces Américains, à part le rock et le twist, hein? Ma Gigi, qu'est-ce que tu croyais?
Mais si, justement, mais c'est ça le problème. Il y a une désumination. J'ai la crème. J'ai vraiment une grosse crème. Bref, une désumination. Bon, bref. Can I get some burger?
Bravo, et ça va mieux, David, ou pas?
Non, ouais, t'as mieux, oui. Pas de problème.
Tu saurais le redire ou pas? Non, on va pas tester. Non, on va pas tenter.
Arrête. On a eu une heure en moins, là. C'est pas possible.
Pardon. Alors, c'est l'histoire d'une chimère qui est en train de devenir bel et bien réelle. On l'appelle la NBA Europe, un championnat européen affilié à la NBA, qui pourrait bientôt voir le jour. Jeudi, Adam Silver, le patron de la Ligue d'or américaine, a officialisé ce projet qui remonte déjà à quelques années. Une nouvelle compétition, indépendante de la NBA, mais qui viendrait concurrencer l'Euroleague. Alors, la NBA Europe, j'aime ou j'aime pas? Dans le coin gauche, la team J'aime, représentée par les poids lourds, David Douillet et Fred Weiss.
Ouais.
Dans le coin droit, la team J'aime pas. Ils sont mignons, les petits poussins. Sarah Pitkowski, Simon Dutin.
Petit poussé, attends.
Petit poussin?
Oui, même petit poussin, attends.
Gros poussin pour moi.
Très bien. Alors, mes gros poussins, tout va bien se passer. Sachez que c'est extrêmement serré sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. C'est à ça qu'on reconnaît un bon bras de fer. C'est du 46-54. 54% j'aime pas. Vous êtes en tête. Donc évidemment Fred et David, vous allez commencer. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, spécialiste basket, Arnaud Valadon. Salut Arnaud.
Bonjour JC, bonjour les GG.
Évidemment, il faut bien comprendre la situation. Alors, il reste encore beaucoup de questions à régler Arnaud, mais concrètement aujourd'hui, c'est quoi le projet ?
Bien que les contours exacts demeurent flous, la NBA a décidé donc de se lancer en s'associant avec la Fédération Internationale. C'est une ligue européenne dans un système fermé. Il y aurait 12 clubs permanents et 4 invités ou promus via la deuxième compétition européenne. Ce format viendrait en concurrence frontale de l'Euroleague, le championnat privé actuel numéro 1, mais qui n'est pas viable économiquement. Adam Silver, le patron de la Ligue américaine, reste prudent, mais voit un potentiel de 3 milliards d'euros de revenus annuels pour un tel projet. Il voudrait y associer en France un club à Paris. Le PSG via le Qatar a été approché parce que la NBA veut s'appuyer sur les grands clubs de football comme le Real et le Barça qui ont déjà des équipes de basket, mais aussi Manchester City. Mais il y a aussi le Paris Basketball indépendant aujourd'hui qui est une vraie réussite sportive. Lyon et l'ASVEL de Tony Parker favorables au projet sont également une cible. Philippe Hausser, le président de la Ligue Nationale de Basket, se réjouit des propos du patron de la NBA qui entend respecter les spécificités du basket européen.
On est un continent de pays et non pas un pays continent comme les États-Unis, c'est quelque chose qui était indispensable parce qu'on le voit bien, le système pyramidal, c'est celui aujourd'hui quand même qui encore marche le mieux. Donc le fait qu'effectivement la NBA s'appuie sur les ligues nationales et les championnats nationaux, c'est un point très très fort. De façon générale d'ailleurs, je trouve que la déclaration d'Adam Silver qui est dit on va prendre le meilleur quelque part des deux mondes. Il aurait pu dire le meilleur des deux cultures basket. Je trouve que c'est une déclaration qui, évidemment, va dans le bon sens.
Le lancement de cette NBA Europe n'est pas prévu avant 2026 au moins, parce que la NBA et la Fédération Internationale sont encore en phase d'exploration. Pour l'instant écarté, l'Euroleague, par la voix de son président interrogé par l'équipe, rappelle que son championnat est installé, mais il n'exclut pas de discuter à nouveau avec la NBA pour un rapprochement.
Merci beaucoup Arnaud Valadon pour ces précisions importantes, évidemment, avant d'entamer ce débat. Maintenant que vous avez les tenants, les aboutissants, place à l'édito, à ce que vous pensez. C'est réellement la NBA Europe, j'aime pas. Alors je vous disais il y a quelques instants qu'on était à 46% j'aime, 54% j'aime pas. Ça vient de changer de manière assez spectaculaire. On est désormais à 44% j'aime et 56% j'aime pas. Donc vous creusez.
Mais c'est peut-être pour ça que vous creusez l'écart, parce que vous n'avez pas encore parlé.
Vous creusez votre écart incroyablement. Donc.
Mais c'est peut-être la compréhension de l'édito d'Arnaud aussi.
Oui, et des informations. Bah, exactement. Fred, commence. Pourquoi tu aimes ?
Alors, j'aime, c'est assez simple. Le basket est le plus beau sport du monde. Et malheureusement, en Europe, il n'est pas suffisamment développé. C'est-à-dire qu'en gros, on a une compétition qui est l'Euroleague, qui est une compétition qui est fantastique, avec des matchs incroyable, avec une ferveur incroyable dans les salles, mais il n'y a pas de broadcaster. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette puissance suffisante pour avoir un diffuseur pérenne qui nous diffuserait ces matchs de façon régulière et qui permettrait à tout le monde de s'intéresser au basket, d'une part. Ensuite, on est en train de dire que cette compétition européenne, donc qui est magnifique, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment où le basket est très très bien joué, on garderait ces mêmes règles, d'accord, mais avec la puissance marketing, économique et le savoir-faire de la NBA. C'est-à-dire qu'en gros, on ferait la même chose, mais en mieux. Donc je comprends pas comment on peut dire qu'on n'est pas favorable à ça. C'est-à-dire que on garderait les mêmes règles, on ferait à peu près la même chose, mais on aurait cette capacité qu'a la NBA, qui est quand même la ligue, la meilleure ligue du monde.
Et je pèse mes mots. Qui fonctionne en pétrodollar quand même. C'est-à-dire qu'il c'est pas des philanthropes, on est bien d'accord.
Mais évidemment.
Donc
mais
la NBA Europe, elle va vendre ses droits encore plus cher, elle trouvera encore moins de diffuseurs.
Est-ce que c'est pas ça justement?
Mais la NBA, le basket est un sport roi aux États-Unis.
Mais qu'est-ce que tu préfères? C'est un sport roi en Europe aussi. C'est le deuxième sport en Europe. C'est un sport roi en Europe aussi.
Sauf que
c'est un sport roi en Europe. Tu te rends pas compte de la ferveur qu'il peut y avoir. C'est juste qu'on n'arrive pas à le vendre. Et
tu penses que la NBA qui va mettre des chiffres va mieux le vendre?
Évidemment, parce que c'est les experts du marketing, c'est la meilleure ligue du monde en marketing. Personne ne peut rivaliser. Donc à partir de là, qu'est-ce qui manque à l'Euroleague? De l'argent. Qui peut trouver le plus d'argent? La ligue qui est la mieux équipée pour ça, qui va te marketer ça de façon magnifique, qui va te vendre ça de façon magnifique.
Mais qui ne connaît pas le concept européen.
J'aime beaucoup l'idée de Sarah. J'aime beaucoup l'idée de Sarah de se dire, ok, on va avoir une compétition européenne où on perd de l'argent tous les ans. Non, ça, c'est pas possible. Ce n'est pas viable.
Mais l'Euroleague, elle fonctionne. Quel n'est pas de diffuseur, on est d'accord.
Elle ne fonctionne pas, l'Euroleague. Tu vois, c'est ça. C'est un souci que tu as.
Mais non, Sarah, non. L'Euroleague, c'est une compétition. C'est une compétition.
Il n'y a pas d'économie en Euroleague. Ce n'est pas viable.
L'Euroleague, tu es d'accord avec moi, c'est une compétition qui a trouvé une forme de juste équilibre entre une ligue fermée avec des équipes tout en laissant la possibilité à certains clubs d'aller gagner leur place.
Toutes les équipes d'Euroleague perdent de l'argent, tu n'as pas trouvé de formule en fait, Sarah, c'est ridicule.
Mais la NBA arrive, qu'est-ce qu'elle va faire?
Elle va marketer pour que ces équipes gagnent de l'argent et que ce soit pas à fond perdu.
C'est une structure commerciale, on est bien d'accord. La NBA est une structure commerciale.
Ce n'est pas qu'une structure commerciale.
C'est surtout une structure commerciale.
Non, il y a tout à savoir.
C'est quand même une structure commerciale qui développe des marques et qui donc ne développe pas des esprits clubs. Une fédération internationale, elle organise un sport pour des nations et des clubs.
Mais
on est d'accord. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais ton déséquilibre mondial, il va exister. La fédération internationale, elle va se faire manger par la structure commerciale.
Mais qu'est-ce qui va se passer? Justement, ils sont en train de trouver des accords pour le faire ensemble.
Mais parce que les clubs.
Tu sais quand même dire.
Mais le fonctionnement européen, il n'est pas le fonctionnement américain. T'es bien d'accord? Tu ne peux pas dupliquer un fonctionnement américain en Europe.
Déjà une ligue quasi fermée, Sarah. Je ne vois pas quelle est la différence.
Mais elle n'est pas fermée.
Mais là non plus, ça serait 12 clubs qui seraient bloqués et 4 qui seraient. Ça ne marche pas parce que économiquement, ça ne marche pas.
Mais que la FIBA se renforce marketing. Je vais juste te donner. Laisse-moi terminer, Fred. Je vais juste te donner une comparaison. La Fédération internationale de tennis avait besoin d'argent, a vendu à Cosmos en disant vous allez mieux faire que nous pour vendre la Coupe Davis. Aujourd'hui, ne connaissant pas le tennis, ne connaissant pas comment ça fonctionnait, ils ont tué une compétition et en plus ils ont refourgué ça à la Fédération internationale.
Tu sais quoi, je connais
débrouillez-vous,
pas quoi je connais la NBA.
Débrouillez-vous, il y a plus un rond, débrouillez-vous. Ce que je veux dire, c'est que si tu mets une structure commerciale dans les pattes d'une fédération internationale qui structurellement parlant, elle organise le sport mondial et pas uniquement européen, elle va affaiblir la FIBA. Donc pour moi aujourd'hui, c'est j'aime pas.
Elle va la renforcer au contraire.
Ok, tous les deux, on a bien compris. Maintenant, ça va être au tour. J'attends le même numéro de claquette, hein, Simon Dutin et David Douillet. David, tu disais à Sarah, non, c'est faux. Vas-y, pourquoi tu aimes ?
C'est faux parce que d'abord, on a quelques exemples, mais quand tu parles de structure commerciale, ce ne sont que des structures commerciales. La NBA en est une, mais la NBA, elle est spécialisée et elle a prouvé que son système fonctionnait. Moi, je vais plus loin. Je vais plus loin. Je considère, mais depuis toujours, hein, depuis longtemps, que le système qui est en place aujourd'hui fait que, en France, par exemple, et dans tous les autres pays, c'est dur pour les clubs. C'est dur pour les clubs de marketer leurs produits, de marketer leurs clubs, d'avoir un diffuseur. Je parlais de l'échelle du championnat national. Hein. C'est extrêmement compliqué. Ils sont tous à la ramasse, tous, sauf un ou deux, et encore. Pour ça, il y a qu'un truc qui fonctionne, malheureusement. J'en suis pas un défendeur absolu, mais je ne regarde que les faits. Il y a qu'un truc qui fonctionne, c'est quand on ferme les choses. Et malheureusement, quand on a un club qui est sûr de rester dans une division, on peut avoir des investisseurs pour le long terme. Et quand on a des investisseurs pour le long terme, on a des équipes qui se structurent, qui deviennent de plus en plus solides, qui deviennent de plus en plus performante, et donc tu as un championnat qui est extrêmement performant. Et qui dit championnat extrêmement performant, dit annonceurs qui viennent mettre de l'argent. Et la pompe est amorcée. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, pour moi, c'est l'avenir et on y passera tous, sinon on sera toujours en train de bric et de broc essayer de maintenir un club à haut niveau et un jour, et ben pendant 2-3 ans ça va marcher et puis pendant 5 ans ça va se casser la figure.
David,
puis ça va remarcher un petit peu.
Pour compléter ce que tu dis, il faut pas oublier que l'Euroleague est déjà une ligue semi-fermée en fait.
Donc
ça change rien du tout par rapport à ça, sauf que
ça va changer sur quel club il va, mais ça on y verra.
Oui, mais sur quel club, je suis d'accord. Mais
c'est bon en fait. Simon veut accéder là-dessus, Simon.
NBA Europe, pour moi, c'est une oxymore. Voilà, la NBA, c'est les États-Unis, l'Europe, c'est l'Europe. Fred, je suis très étonné de par ta position parce que encore une fois, l'Euroleague a ses propres soucis. Mais foutez-nous la paix. Restez chez vous. La NBA, il faut que ça continue à faire rêver. La NBA, c'est là-bas, c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Moi, j'ai grandi en m'intéressant à la NBA. On avait un match par semaine sur Canal. Ça faisait rêver. Ça reste un lointain mirage pour certains mecs. Je trouve que le schisme entre le basket européen et le basket américain, il faut qu'il continue à perdurer parce qu'il fait le charme aussi des compétitions internationales. Il a construit l'identité du basket mondial. Il l'a façonné. Il y a, j'en veux pour exemple, des joueurs qui sont des légendes en Europe, Fred, et qui n'ont jamais réussi la transition en NBA. Des Navarro, des Spanoulis, des Teodosic, tu sais, qui sont des véritables légendes de l'Euroligue et du basket européen.
Tu nous vends la NBA
Europe, mais Adam Silver, laisse-nous tranquille. La NBA.
Mais comme ça, le sport, le basket va mourir.
La NBA Europe. En NBA, la ligne à 3 points, elle n'est pas à la même distance, mais en NBA Europe, on va garder la ligne à 3 points avec laquelle vous jouez, les mecs, parce qu'on n'a pas envie de vous laisser.
Mais en fait, c'est juste une ligue européenne qui
et là où je vais en terminer, c'est que, en effet, il y a quand même des clubs, même si on nous vend la pérennité, tu sais, des clubs, encore une fois, c'est pour solidifier les contours d'une ligue de nantis, qui on garantira des revenus annuels.
La Super League, exactement,
comme en foot. Donc forcément, les plus grosses équipes actuelles, elles vont survivre, elles vont trouver leur compte, elles auront leur place à table. Mais quid des Vitoria, des Kaunas, des Bologne, des clubs qui ont réussi à exister dans le passé, qui sont des grands clubs du basket européen et qui peut-être, pour certains, vont être mis sur la touche parce que qui a envie de qu'à Manchester City, va leur demander, les mecs à Manchester dans la rue, s'ils ont envie qu'ils aient une équipe qui participe à la NBA Europe.
Justement.
Est-ce que toi qui connais mieux le basket que personne ici, t'as envie que des clubs sortent de terre comme ça parce qu'il y aura du pognon, qu'il y aura des investisseurs qui
et sans histoire.
Tu veux dire comme le Paris Basketball, par exemple?
Non mais alors justement, moi,
la différence de toi, je suis pas foudroyé par l'émotion procurée par le Paris Basketball. Excuse-moi.
Moi, je trouve qu'ils font un super taf.
J'aimerais qui bosse bien, c'est pas la question, mais bon, ça manque un petit peu d'épaisseur.
J'aimerais qu'on explique bien pour tous les auditeurs, parce que il y a quelques jours, Tony Parker dans l'équipe s'est exprimé là-dessus, où il voit d'un très bon œil cette NBA Europe. Il dit, je pense que c'est important pour nous de s'associer à ça. Lui, en tant que président de l'ASVEL, alors qu'il est en Euroleague, je ne peux pas dire grand-chose sur les discussions, mais le seul truc que je peux dire, c'est que je veux qu'il y ait la NBA Europe et j'ai envie qu'on fasse partie de cette NBA Europe. Aujourd'hui, il y a 13 clubs actionnaires de l'Euroleague, dont l'ASVEL, qui se sont engagés avec l'Euroleague jusqu'en 2040. Donc, pour casser le contrat, il faut évidemment verser une somme d'argent pour aller dans une autre structure. Question très simple, Fred. Est-ce que ça veut dire que il y aura l'Euroleague et la NBA Europe, ou en fait, l'Euroleague va mourir, place à la NBA Europe, et donc tous les clubs qui étaient en Euroleague vont aller en NBA Europe?
Honnêtement, comme ça, de but en blanc, c'est difficile de donner une réponse. Pour moi, l'Euroleague va mourir. Pour moi, l'Euroleague va mourir parce qu'il n'y a pas de réalité économique à l'Euroleague.
Ok, donc l'Euroleague meurt.
Donc je vois pas comment elle pourrait.
On sait que la NBA Europe s'intéresse au PSG. Donc à QSI qui a investi évidemment dans le foot, dans le judo.
C'est sexy de s'associer à une marque quand t'es
exactement.
Déjà.
Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, il y a le Paris Basketball. Qu'est-ce qu'on fait? On garde le Paris Basketball, on demande aux Qataris de racheter le Paris Basketball, parce que c'est forcément, on laisse deux clubs à Paris, un qui va en Euroleague, un qui va en...
On peut garder deux clubs à Paris sans aucun problème, hein. Sur le principe, il n'y a aucun souci.
Ça marchera pas, Fred, ils vont leur dire, vous vous démerdez, mais vous nous faites un grand club à Paris, point barre, et s'il peut s'appeler PSG, c'est quand même mieux.
Alors, s'il s'appelle, PSG, oui, mais
ça ne marche pas.
J'arrive,
ça fonctionnera aussi.
Ça ne marche pas, Fred, regarde, ils ont déjà essayé, la NFL Europe, c'est un flop absolu, il n'y a aucune passerelle.
La NFL n'a pas la même passion en Europe que le basket.
Là,
en fait,
là, tu peux pas comparer. Je suis d'accord avec toi sur l'engouement.
Sur l'engouement,
en NFL, ils se sont dit avec le show, avec les pom-pom girls,
tu vas t'appuyer sur la FIBA et tu vas t'appuyer sur l'Europe du basket qui fonctionne très bien. Mais bien sûr que non, ils vont le faire conjointement. Preuve en est, ils partent de 4 fois 10 minutes, ils partent de la ligne à 3 points sur la même distance, ça serait une ligue européenne mieux vendue et mieux marketée, c'est tout.
David, tu voulais ajouter?
Moi je vous trouve très naïf. Quel est votre problème par rapport à l'argent dans le sport? L'argent, il est partout. Il est dans le foot, il est maintenant dans le rugby, il est dans le tennis, il est dans le golf, il est dans le basket aussi, à travers, c'est 12 milliards, la NBA, je regardais le chiffre, 12 milliards. Bon. Mais quel est le problème? Le CIO, se tient par rapport à l'argent. L'argent, tout ce qui tient le sport ne peut être tenu, malheureusement, que par l'argent. C'est comme ça, c'est le haut niveau qui est tenu comme ça. Quel est le problème? Quel est le problème d'adopter quelque chose qui fonctionne? Moi, je vois pas où est le problème.
Ça va te répondre, justement.
Mais
attends, je vais finir juste, Sarah, j'en ai pour une phrase. Quand quelque chose fonctionne à la tête du navire, je veux dire, c'est dans les plus fines capillarités, même si les clubs en font pas directement partie, je peux te dire que tout le monde en profite. Ça, c'est la règle.
Je suis d'accord effectivement qu'il faut de l'argent dans le sport, mais quand tu commences une discussion, il faut que les deux parties elles aient les mêmes forces. Et aujourd'hui, quand tu as la FIBA qui parle à la NBA, forcément il y a un déséquilibre. Donc celui qui va imposer ses règles, celui qui va tout imposer, c'est la NBA, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui a la puissance. Là on parle
de deux entités. Même si c'est le cas, quel est le problème?
L'entité fédération internationale, c'est ce qui construit notre sport mondial. C'est lui qui est
référent.
Mais bien sûr que si.
C'est
une fédération internationale. C'est pas la NBA qui a l'agrément du CIO. Mais non.
Tu vas dans la rue. Tu fais le test. Tu prends trois gamins. Tu dis le basket, c'est quoi pour vous? Il y en a cinq qui vont te citer la NBA, la FIBA, ils savent même pas ce que c'est.
Non mais d'accord. Voilà, mais là, on parle d'image. On parle pas de structure. Ce que je veux dire, c'est que il y a deux entités qui sont déséquilibrées. Il y aura pas de disque.
Mais ils sont suffisamment intelligents pour s'adapter au territoire où ils vont s'implanter. C'est ça qui est bien.
Mais quel meilleur gagne? Attendez, qu'est-ce que vous racontez?
Tous les jeunes là. Le sport commercial dans le monde entier.
Mais c'est ce que je suis en train de te dire.
Le CIO ne sert plus à rien. Alors.
Mais c'est pas vrai, le CIO est commercial. Qu'est-ce que tu racontes? Le CIO, c'est une entité commerciale.
Oui, mais l'ADN, ça ne l'est pas.
Pourquoi
Pourquoi on a choisi ça, ça ne l'est pas. Il y a une neutralité du CIO quand même.
Je te donne un exemple. Pourquoi les États-Unis sont systématiquement choisis une fois sur deux,
oui,
une fois sur trois,
on va en parler dans 5 minutes, oui.
Pourquoi? Pourquoi? Ben tu le sais pourquoi.
Parce que le CIO est financé par les États-Unis.
Ben oui. Il faut arrêter d'être hypocrite et d'accepter que le sport, comme beaucoup de choses, c'est dirigé par l'argent. Malheureusement, je suis d'accord, mais c'est comme ça.
Ok, on a bien compris vos positions. C'était un débat enflammé, très intéressant.
Vous parliez
des États-Unis. C'est vrai qu'à partir de 11h, on va ouvrir un dossier là aussi passionnant. C'est Donald Trump avec ses deux événements sportifs sur son sol, la Coupe du Monde de foot en 2026 et les Jeux Olympiques en 2028. On en parle à partir de 11h. Je sens qu'on va encore s'amuser, les copains. Les scores, donc, on termine à 45-55. 55% j'aime pas. 45% j'aime. Voilà, vous avez gagné un petit pourcentage. Fred et David, bravo à vous les copains. En tout cas, c'était très serré.
Merci Simon.
Il est 10h30.
Franchement, je crois que vous m'avez convaincu. Hein.
Il est 10h30. On se retrouve dans quelques instants. Oui, il rigole évidemment. Novak Djokovic qui va peut-être gagner ce soir son 100e titre sur le circuit ATP. Bon, c'est pas un record. Est-ce que c'est un événement? Oui ou non? Les GG ne sont pas d'accord. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Je vous assure, chers auditeurs, un jour je diffuserai les conversations pendant la petite page publicitaire, hein, parce que c'était passionnant. Ils ont poursuivi le débat. Vous savez que c'était terminé, on n'était plus à l'antenne, hein, Sarah et Fred.
Ça comptait pas là.
Ouais, non, vous êtes encore acharné sur vos arguments. Oui, non, la NBA Europe, c'est pas bien. Oui, non, mais toi, regarde. Ah bon, bref, c'était passionnant en tout cas, bravo. On va les diffuser un jour. Pas toutes, hein, parce que parfois quand Denis Charvet est là, on parle pas que de sport. Donc,
et Simon, il faudra censurer aussi, mais sinon c'est bon.
Ouais, on va vite se faire interdire de.
Oui, et c'est pas le but non plus, parce qu'on aime cette émission avec David Douillet, Sarah Pitkowski, Fred Weiss, Simon Dutin à partir de 11h. Un débat passionnant autour de Donald Trump et le sport avec la Coupe du Monde qui arrive en 2026 aux États-Unis, pas seulement, justement, Mexique et Canada aussi. Vous connaissez la tension géopolitique, donc il y a un peu de friture sur la ligne, et puis aussi les Jeux Olympiques en 2028. On se posera la question et nous serons avec un invité justement pour y répondre. Mais là, nous allons passer au tennis. Alors, ce n'est pas un record qui est en jeu, mais une marque symbolique. Ce soir, Novak Djokovic peut devenir le troisième homme de l'histoire à remporter un 100e titre sur le circuit ATP, derrière Jimmy Connors et ses 109 victoires, et Roger Federer, 103 succès. Alors pour cela, évidemment, il faudra gagner la finale aujourd'hui du Masters 1000 de Miami, face au jeune Jakub Menzik. Avant cette finale, l'homme aux 24 grands chelems égale déjà un record, celui du nombre de finales en Masters 1000, 60 à égalité avec André Agassi. Le Serbe, construit, vous le savez, semaine après semaine, mois après mois, encore un peu plus sa légende. Et cette 100e victoire, et ben c'est un objectif réel pour le Joker cette saison, un objectif qu'il a en tête depuis les JO de Paris. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Ever since I won my 99th, which was the Olympic Games in Paris.
Après les Jeux Olympiques, on m'a beaucoup parlé de ces 99 titres. Le 100e, j'y pense depuis les JO. J'ai participé à la finale du Masters 1000 de Shanghai. Je suis passé tout près.
I played finals of Shanghai. I was close there.
Ensuite, j'ai essayé de trouver le niveau de tennis dont j'avais besoin pour me mettre en position de remporter ce grand trophée.
To fight for a trophy, a big trophy.
Et voilà, ça compte, c'est dans son esprit la 100e victoire de Djoko. Alors ce soir, est-ce que c'est un événement? Oui ou non? Sarah Pitkowski.
Malgré mon amour profond pour Djokovic, je te réponds non.
C'est non. Fred Weiss.
Évidemment que oui.
David Douillet.
On n'y arrivera pas.
Non,
Fred.
Non.
C'est non.
Non.
Simon Dutin.
Plutôt non.
Plutôt non. Ok, alors Fred, tu n'as pas commencé, même si tu es le seul à dire oui. Mais j'ai envie d'abord d'écouter les explications de Sarah. Pourquoi non? Pourquoi c'est pas un événement, cette 100e victoire de Djoko?
C'est un chiffre symbolique, tu l'as dit. C'est probablement un événement pour lui, mais c'est pas un événement dans sa globalité pour le tennis. Parce que le chiffre 100, c'est très bien, mais il est tout de même encore à 3 unités d'un certain Federer. Donc là, on est dans un record. Et on est encore à 7 unités de Jimmy Connors.
9.
De Jimmy Connors.
S'il gagne 9.
S'il gagne 9. On est encore. Parce que je veux dire, c'est pas un record, c'est un objectif de plus dans sa dans les records qu'il veut lui cocher. Aujourd'hui, Djokovic, à l'âge où il a 37 ans, et ben il est là pour essayer de battre ses propres records et les records d'autres qui sont passés avant lui. Mais un événement, non. franchement, pas un événement. Pas un événement dans le tennis, c'est vraiment uniquement pour lui. Mais pas sur le plan du circuit mondial en comparaison avec les autres joueurs, tout simplement.
On est sorti de la NBA Europe, mais Fred Weiss ne va encore pas être d'accord avec toi. Mais avec d'autres arguments, j'espère.
Oui, bien sûr. Enfin, j'espère. Non, mais clairement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout ce que dit Sarah. Il n'y a que deux joueurs actuellement qui ont passé cette barre symbolique des 100. Et tu deviens le troisième et ça devient banal. Et je trouve ça hyper choquant. Pour paraphraser Christophe Cessieux, c'est les pisserois qui pensent ça. À un moment, c'est un événement, forcément.
Merci pour moi.
C'est un événement quand tu fais quelque chose que seules deux personnes avant toi avaient fait. Comment ça ne peut ne pas être un événement? Ça marque une longévité. Ça marque des victoires absolument incroyables.
Ça n'a pas le poids d'un 25e titre du Grand Chelem.
Ça n'a pas le même
impact.
Mais quel rapport? En fait, on n'est pas en train de comparer.
On parle de la crème de la crème.
Événement maximum.
S'il bat Margaret Court, s'il gagne encore un grand chelem,
il joue Jakub Meljšík en finale. Cette marque de 100, il n'y a que deux joueurs pour l'instant. Ouais. C'est juste fantastique, c'est juste incroyable. On est en train de banaliser.
Mais il le trouvera à son centième, il ira, il joue un ATP 250, il va le gagner.
J'ai l'impression que la plupart des gens banalisent des exploits, des superstars et des dieux vivants comme Djokovic. C'est magnifique, c'est incroyable.
Il sera pas plus un dieu vivant parce qu'il est à
La preuve, même lui a cet objectif tout le monde lui en parle.
Ok, David, justement, l'homme des records, une superstar, superstar à nous. Pourquoi tu dis non?
Bah si.
Non, arrêtez. Je suis un pichot, Fred, je te jure. Et moi, ce qui me gêne, c'est que maintenant les grands joueurs sélectionnent les tournois, etc., etc. Et là, pour le centième, il va rencontrer un gars qui est classé en dessous des 50 premiers mondiaux, tu vois. Il a 19 ans, donc je pense qu'il va en faire du petit bois. Voilà, et c'est pas bon bof, quoi. Moi, ça m'impressionne. Enfin, d'accord, il y a la longévité, mais je suis d'accord avec Sarah. Quand on parle de grand chelem et quand on parle du record des grands chelems, là, oui, c'est impressionnant. L'addition de tous les petits tournois périphériques, tu fais une espèce de comptabilité.
Tu sais que c'est quand même le plus âgé à atteindre les finales d'un.
Je sais, mais David, il aime les grands événements. Hein. David, c'est un homme. Je comprends ce qu'il dit parce que lui, il n'y a que les grands événements qui comptent. Je veux dire, les grands slams, tu les comptabilises pas, toi, David.
Ouais, non, c'est ça, ouais. C'est les gros trucs, toi. Là, c'est à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, quoi. Tu rencontres un jeune de 19 ans, 54 ans.
David, t'as entendu, il est à peine 19 ans, son adversaire, mais lui, c'est le plus âgé à atteindre ce niveau de la compétition sur un ATP, sur un Master 1000, pardon.
C'est mais on trouvera.
C'est incroyable.
Mais si tu déroules son palmarès, tu vas toujours trouver chez Djokovic en disant alors il est le premier de ça. Ok,
on a banalisé ça. Il est que dans le top 3 des mecs qui ont passé les 100 victoires.
C'est pas qu'on le banalise. On parle de la question est-ce que c'est un événement? C'est un objectif. Mais c'est pas un événement du tennis mondial.
Le troisième tennisman à être à passer la barre des 100, c'est un événement.
Mais c'est pas le premier.
Exactement.
Bon, encore une fois, tout dépend de la définition qu'on donne au terme événement. Là où je rejoins Sarah, c'est que, 100, c'est une marque très symbolique. Ce qu'on peut noter quand même par rapport à un Connors qui est à 109, c'est qu'il y a plus de tournois, il y a plus de dates, il y a plus d'occasions de gagner. Alors même si on peut rétorquer que peut-être qu'il y a la densité de l'opposition est un peu plus grande qu'à l'époque de Connors. Je pense à Federer, à Nadal, à Murray qui lui ont mené la vie dure. Bon, depuis la retraite de ces mecs-là, Julien Beneteau le rappelait hier, il y a quand même beaucoup de mecs du top 10 qui chutent dans les tournois. Je veux dire, t'as plus les 4 meilleurs mondiaux dans les demi-finales et tu peux donc arguer que c'est moins difficile, c'est moins un exploit de remporter un Masters 1000 depuis 2-3 ans que ça n'allait été pendant très longtemps. Les carrières durent plus longtemps, la préparation physique a évolué. Je suis pas sûr que Connors bouffait sans gluten, je suis pas sûr qu'il se préparait autant que ça. Je pense qu'il faisait un peu plus la fête que Djoko. Donc je pense que même s'il est arrivé à 110, je pense que ce qu'a accompli Connors en son temps, parce qu'il y avait quand même pas que des pimpins pour lui tenir tête, c'est un peu plus remarquable en termes de voilà de par rapport à au progrès technologique qu'on a fait dans le matériel en que les staffs ont fait dans l'entourage. On sait que Djoko il est très très entouré, donc oui, un événement, oui, forcément, on va en parler. La preuve, on est en train d'en parler. Ce que tu rappelais, moi, je trouve, c'est quasiment plus remarquable que la marque des 100, c'est de devenir le mec le plus âgé. Ça, je pense que ça restera plus que la centième décrochée à Miami. Et dans un sport qui, voilà, compartimente entre les majeurs et les tournois, même si on a ces Masters 1000 qui, bon, sont le deuxième étage. Du palmarès, je pense en effet que s'il remporte un 25e titre du Grand Chelem et qu'il devient le plus grand
le numéro 1 hommes et femmes
confondus, ça ce sera vraiment un événement historique. Voilà.
109, Jimmy Connors, il peut aller le chercher ou
pas? Non, pas parce que de toute manière, il cible les grands tournois. Oui, et dans les grands tournois.
Et justement, est-ce qu'il va pas aller à un moment donné cibler quand il pourra?
Non, parce qu'en fait, il y a des règles avec l'ATP qui fait qu'il peut pas jouer certains tournois. Donc, les plus petits tournois, il peut pas les jouer. Et l'adversité, elle est grandissante. Les joueurs comme Mensik qui va jouer en finale, attention à lui. Il a 19 ans. C'est des joueurs qui peuvent taper Djokovic, qui peuvent taper les meilleurs aujourd'hui. Donc, non, sans 9, j'y crois pas. Regardez la dernière finale.
Ce sera un exploit pour le coup.
Ah, oh, un très grand exploit. La preuve, c'est que la dernière finale qu'il a jouée, c'était Shanghai. C'était il y a 8 mois. Donc même les finales, elles sont espacées. C'était il y a 8 mois à Shanghai, la dernière finale. Donc s'il joue des finales tous les 6 mois, il va en falloir des années encore pour jouer, pour aller les chercher les titres. Donc non, là, ce qu'il veut rentrer dans le cercle fermé des joueurs qui ont gagné 100 titres, mais ce que lui va chercher. Pardon ?
Tu crois parce que ce serait un événement pour lui ?
Il rentrerait dans le cercle, okay. Ce serait pas le meilleur. Mais aujourd'hui, pourquoi Djokovic joue encore?
Pour les records.
Qu'il peut aller chercher, c'est un 25e titre du Grand Chelem. Et c'est là-dessus qu'il se concentre. Il s'est concentré l'année dernière pour aller chercher une médaille olympique. C'est ce qui lui manquait à son palmarès. Donc il est arrivé à 99. Donc là, il veut aller chercher la barre des 100. En fait, il se fixe des petits objectifs. Mais c'est plus un joueur qui va jouer toutes les semaines. Il va choisir ses tournois. Donc 109, moi, j'y crois pas une seconde.
Ok les amis, on a bien compris votre sentiment. C'est à 20h hein, la finale ce soir. Nous allons suivre ça sur RMC avec peut-être un
parce que Mensik, son idole c'est Djokovic. Donc on va voir comment il va supporter le poids d'une finale. Et puis Djokovic, il va en jouer, il va le chambrer, il va en jouer parce que c'est le moyen qu'ils prennent le dessus. Donc ça va être très intéressant à regarder.
T'es qui ton idole toi, Fred?
Magic Johnson.
Ok. Jouer face à lui, là, t'aurais.
J'aurais adoré.
Ouais, t'aurais adoré. Ouais. Sarah, c'était qui?
C'était Monica Seles.
Ok. T'as jamais joué
Si, j'ai joué Seles. Mon premier tournoi du Grand Chelem était face à Monica Seles. Bah, j'étais impressionnée, mais c'était chouette de la jouer parce qu'elle révolutionnait le tennis à l'époque.
Et t'as réussi à sortir rapidement de cette idée que c'était ton idole ou non? Tout le match, t'es resté bloqué?
Non, parce que de toute manière, j'étais déjà morte de trouille de jouer sur un grand court. Donc, peu importe qui est-ce qu'il y avait en face, mais. J'ai une belle photo de l'équipe où je suis face à Monica Seles.
T'as pris combien?
J'ai dû prendre 2-7. Maintenant, c'est pas 4-2 ou quelque chose comme ça.
Ah, quand même.
Ouais.
Bon, ça va. David, hormis toi, c'était qui ton idole?
Moi, j'aurais rêvé, mais on avait 20 ans d'écart, donc c'était impossible de rencontrer Yamashita. Et ça reste toujours mon idole encore aujourd'hui. Pour moi, c'est le plus grand judoka de tous les temps, quoi.
Ok, Simon, tiens, je te demande quand même.
Moi, l'an dernier, j'ai battu Martin Coulon en finale de notre tournoi de golf. Tu sais, c'est un peu notre Tiger Woods à nous.
Oui, voilà. Alors pour ça, les copains, il faut suivre le practice RMC. D'ailleurs, on sera de retour demain, c'est deux fois par semaine. Vous allez sur l'application RMC. Merci beaucoup, Simon, pour cette transmission et pour vous parler de golf un petit peu.
Et toi, JC?
Moi, c'est Jordan. Mais moi, je vous pose la question en tant que sportif, parce que vous avez. Regarde, Sarah.
Bah, t'as demandé à Simon, alors tu peux demander à n'importe qui. Hein.
Non, mais Sarah, elle a pu rencontrer Monica Seles, je trouve ça extraordinaire comme histoire. Moi, Jordan, il me donne pas l'heure. Aucun intérêt, tu vois.
Pour te répondre, moi, mon idole, c'était Chris Waddle, un joueur de l'Olympique de Marseille.
Quand j'étais jeune,
j'aurais rêvé de rencontrer Chris Waddle.
C'est pour ça que tu laisses cette coupe?
J'ai fait disparaître le mulet. Un peu comme Chris Waddle en son temps. On change un petit peu de style.
Très bien.
En effet, merci.
Avec plaisir. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Et évidemment, qui a gagné la contre-attaque? Il y a quatre très beaux débats aujourd'hui. Mais il n'y a qu'un vainqueur. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Mais là, on va pas jeter bébé, l'eau du bain, la grand-mère dedans et la poussette dans la rivière.
Les grandes gueules du sport.
Nouvelle expression.
Jean-Christophe Drouet.
Ah oui, c'était une nouvelle expression la semaine dernière de Christophe Sessieux, la poussette dans la rivière. Bravo mon cher Christophe, que l'on retrouvera évidemment la semaine prochaine en pleine forme. Il a pris quelques vacances. Toujours avec David Douillet ce matin, Simon Dutin, Sarah Pitkowski, Fred Weiss, Sarah, Fred, vous allez être d'accord à un moment donné ou pas?
Non.
Non.
On n'est pas d'accord sur le prochain débat non plus?
À partir de 11h, je crois que vous n'êtes pas d'accord, les copains. Ouais. On parlera de Donald Trump face à la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Ça, c'est en 2028, la Coupe du Monde en 2026. Est-ce qu'il faut déjà s'inquiéter? Nous serons avec un invité géopolitique. J'ai du mal à le dire depuis ce matin.
Ouais.
Géopolitologue du sport, c'est Kevin Bessière qui sera notre invité ce matin. Et évidemment, nous allons parler de Donald Trump, le président américain. Notre
Trump,
direct en cours avec Maria Azé. C'est une course cycliste. C'est Gant Wevelgem aujourd'hui. Bonjour Maria.
Salut à tous. Salut.
Alors il n'y a pas Mathieu Van Der Poel. Il était sur le 3 vendredi. Il n'y a pas Pogacar qui se prépare pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. C'est qui les favoris alors?
Bon, il y a quand même un beau plateau, j'y sais, sur ce Gant Wevelgem, même si les deux monstres du moment ne sont pas là. Tu le disais, les meilleurs sprinteurs du monde, eux, sont là. Jasper Philipsen, Jonathan Milan, Olaf Koch. Mais encore faut-il qu'ils arrivent à tenir, puisqu'il y aura quelques côtes bien pentues sur le parcours de 250 km de Gant Wevelgem, notamment le Mont Kemmel à plus de 9%. Alors, les spécialistes des classiques sont là aussi. Mats Pedersen, vainqueur l'an dernier. Filippo Ganna, deuxième de Milan-San Remo, derrière Van Der Poel et devant Pogacar. C'était il y a quelques semaines. Alors, à moins que la belle surprise aujourd'hui, elles ne viennent du côté de nos Français et pourquoi pas de Paul Magnet, grand espoir du cyclisme français qui attend encore de lever les bras cette saison. Il revient de blessure. Voilà, c'est parti depuis quelques minutes ici en Belgique. Arrivée prévue à Wevelgem autour de 16h15.
RMC. Les GG contre-attaque.
Alors, quatre propositions de débat ce matin. Vous avez été nombreux à voter sur le compte X des grandes gueules du sport. La dernière place pour Simon Dutin et son sujet sur la Ligue 1, non aux tablettes. Voilà, sur les bandes touches. Il n'en veut plus. 16% dernière place. Merci d'avoir joué. Deuxième.
Un auditeur m'a fait remarquer très justement qu'en rugby, en top 14, tout le monde en a. Alors, pourquoi pas en foot désormais, voilà.
Oui, oui. Bon, on en parlera pendant la pub.
D'accord.
Troisième place pour Alexis Lebrun qui s'excuse après les championnats. France, lui qui a fait un geste de la main, il s'est d'ailleurs blessé, il ratera la prochaine Coupe du Monde. Alexis Lebrun, 24% pour toi, c'est quand même un bon score, ma chère Sarah, bravo. 26% pour la petite polémique Laurent Ciara qui, sur Monaco TV, a dit allez Nissa, lui le Niçois. 26% deuxième quand même, c'est pas mal. Et la grande victoire pour David Douillet, 34% à plat de couture, comme on dit. Pour Adja, Red Bull, le baquet maudit avec Liam Lawson, tu peux exposer ta problématique. On t'écoute, David.
Bah, elle est très simple. Je l'ai exposé tout à l'heure. On a un deuxième baquet chez Red Bull qui est maudit. Alors, Liam Lawson en a fait les frais au bout de trois Grands Prix.
Deux Grands Prix.
Deux Grands Prix, pardon, il est remercié. Il n'est pas là pour le troisième. Yuki Tsunoda est promu, puisque Racing Bull était devant cette voiture-là juste avant qu'il ait son problème d'aileron au Grand Prix de Chine. Donc il va s'exprimer au Japon sur Red Bull. Qu'est-ce qui se passe? Parce que visiblement, quels que soient les pilotes, je suis remonté à Gasly jusqu'à Lawson, personne n'a réussi à performer. Pourquoi? Ben peut-être parce que cette voiture, en réalité, elle a été conçue pour quelqu'un d'exceptionnel, Verstappen, qui a un pilotage tout à fait particulier, tout à fait spécifique, et visiblement, personne n'arrive à conduire la deuxième voiture Red Bull puisque toutes les caractéristiques découlent des qualités de Verstappen. Est-ce que Adjar, imaginons que Tsunoda soit aussi victime de cette malédiction, ce qui pourrait arriver. Quelles sont les options aujourd'hui sur le papier de Red Bull? Ce serait peut-être de proposer à Isaac ce volant. Alors, est-ce que ce serait une bonne idée ou une mauvaise idée à 19 ans, avec toute l'expérience qu'il a encore besoin d'acquérir, que de se mettre dans son baquet? On n'en est pas si sûr, parce que Ben parce qu'il pourrait être victime de ça. Et comme un Ricardo en étant parti chez Renault de Red Bull, eh bien, ça a été une décrépitude de sa carrière. Et puis, aujourd'hui, il est plus dans une F1. Donc, c'est pas ce qu'on veut pour Isaac, parce qu'il a un talent fou. C'est notre petit Prost, comme on aime le nommer. Maintenant, je me pose une question. Demain, si Verstappen s'en va, quand une écurie a configuré une voiture autour d'un seul individu, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il peut partir Verstappen demain. Qu'est-ce qui se passera? Moi, je pose beaucoup de questions. Je suis très inquiet pour cette écurie, en fait.
Ok, on va en parler avec les GG, évidemment. Tu parlais de Pierre Gasly, c'était en 2019. Hein, il avait tenu 12 Grands Prix derrière Max Verstappen. En plus, il avait pris 12 départs donc dans ces Grands Prix. Aucun podium, mais tout de même 63 points gagnés au même moment où Max Verstappen, lui, en avait remporté 181 points sur la même période et n'était jamais sorti du top 5. Ensuite, il y a eu Alexander Albon, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc oui. En 2019-2020, qui avait pris la place de Pierre Gasly. Lui, il avait disputé 26 Grands Prix avant qu'on lui dise merci, au revoir. Et puis, on va dire le contre-exemple, c'est plutôt Sergio Pérez qui, lui, avait tenu 89 Grands Prix avec Red Bull. Sergio Pérez qui est donc parti. C'est donc Liam Lawson qui est arrivé. Liam Lawson, 2 Grands Prix, un petit tour. Et puis, ça en va. Comment vous analysez cette situation, Sarah?
Je pense que le problème, ou en tout cas la difficulté, elle vient pas des pilotes. Parce que tu viens de le dire, Sergio Pérez, c'était quand même un pilote ultra expérimenté. C'est peut-être le souci, vient peut-être de la voiture, tout simplement. Parce que David a l'air de penser que la voiture, elle a été configurée pour Verstappen. Mais peut-être qu'en fait, Verstappen a une voiture et des ingénieurs qui sont pour lui et qui développent la voiture pour lui. Et qu'on met pas du tout les mêmes investissements dans la deuxième voiture.
Est-ce que c'est pas ce qui se passe toujours?
Oui, ouais, mais on est d'accord. Mais alors virer ou rétrograder un pilote après deux grands prix, alors que dans ta hiérarchie, de toute manière, t'as Verstappen et le deuxième pilote, il est peut-être là pour faire le fond de grille ou aider le premier. Ça, je sais pas.
Mais c'est surtout que Liam Lawson, on en parlait hier. Hein, il a été très ému. Il a communiqué cette semaine
parce
que
grands prix,
c'était son rêve de faire partie de cette écurie Red Bull. Il faut se rappeler qu'en 2021, quand Red Bull vient chercher Sergio Pérez, c'est parce qu'ils veulent arrêter cette politique de l'académie. Ils veulent quelqu'un d'expérimenté. Il avait 10 saisons, je crois, en Grand Prix, en Formule 1. Donc, voilà, quelqu'un d'expérimenté. Et puis 2024, là, on change.
Ouais.
À 2025, et on reprend un petit jeune. Et on lui laisse que deux Grands Prix.
Et tu sais quoi? Il ne vaut surtout pas qu'Isaac Hadjar il monte chez Red Bull. Mais surtout pas. Parce que de manière, il va se faire découper. Déjà, le premier Grand Prix, vu en Australie, comment il est sorti de piste, même dans les tests. T'as envie de lui dire, mais gars, reste en deuxième ligne, fais tes classes, monte tranquillement. Mais j'ai envie de dire que le deuxième baquet de chez Red Bull, pour l'instant, c'est la guillotine, en fait.
Ok, faut pas y aller.
Moi, enfin, pas tout de suite. Hein.
Je suis pas d'accord. Je pense que le deuxième baquet de Red Bull, il est impossible à refuser quand t'es un des 20 pilotes.
À refuser, t'as raison. Mais il vaut mieux pas qu'on te le propose.
On parle de gens qui, pour arriver déjà à cette altitude, au plus haut niveau du sport automobile, sont tous intimement persuadés qu'ils sont intrinsèquement les meilleurs pilotes, qui sont meilleurs que les 19 mecs avec qui ils font la course chaque week-end. On parle.
Enfin, ils sont pas intimement convaincus qu'ils ont la meilleure voiture pour le faire.
Ils sont le meilleur pilote. Ça, j'en suis persuadé. Et le bac Red Bull, il est impossible à refuser. Et il y a bien un mec qui va finir par réussir à piloter cette deuxième voiture. Et je pense que celui qui va réussir, c'est un peu comme celui qui réussit à, je sais pas, tu sais, arracher l'épée de Merlin.
Excalibur,
tu vois. Oui. Je pense que ça sera un tremplin unique pour sa carrière et que ils sont nombreux à se dire, à mon avis, moi je suis capable de faire le match avec Verstappen.
Donc là où tu vois, vas-y David rapidement.
J'ai eu quelques indiscrétions du paddock, je ne donnerai pas mes sources, mais tout le monde s'accorde à dire que cette voiture est inconduisible. Voilà, et je pense que personne ne voudrait qu'on lui propose.
Ok, et là où tu vois toi Sarah une guillotine, toi tu vois une chance unique justement de peut-être un jour détrôner Verstappen. On verra tout ça la semaine prochaine avec le Grand Prix du Japon et on s'attardera sur les performances de Yuki Tsunoda, forcément. Il est 10h57, on se retrouve dans quelques instants pour un débat passionnant, Donald Trump face à la Coupe du Monde 2026 et les Jeux Olympiques 2028. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.